dans ce cours Microsoft Virtual Academy dans lequel on parle des bases de Visual Studio. Alors pour rappel, c'est un cours qui s'adresse principalement à des personnes qui n'ont jamais vu Visual Studio et qui ont envie de découvrir ce qu'on peut faire avec. Je m'appelle Étienne Margrave, je fais partie de l'équipe des évangélistes techniques de Microsoft France et vous pouvez me contacter sur Twitter en utilisant @emargrave. Pour rappel, c'est un cours qui est divisé en 5 modules. Dans le premier module, vous avez vu ce qu'était Visual Studio et vous avez aussi compris que c'est un outil qui ne s'adresse pas uniquement aux développeurs, mais à tous les profils d'une équipe, puisqu'on a une gamme de produits complète qui va permettre d'être utilisé par un des designers, le développeur évidemment, mais aussi un administrateur de base de données et quelqu'un qui va gérer la production et faire le suivi de notre application une fois qu'elle est déployée. Dans le module numéro 2, on a parlé de la création d'un projet dans Visual Studio et de la création d'une première application. Donc vous avez créé votre première application, vous avez utilisé le designer de code et également le designer des interfaces graphiques qui permet très facilement et visuellement de créer l'interface graphique pour une application. Dans le module que vous êtes en train de regarder, on va s'intéresser d'un petit peu plus près à une fonctionnalité qui permet de comprendre les origines d'un problème dans une application et qui s'appelle le débogage. Donc, déboguer une application, qu'est-ce que c'est en fait, hein? Le principe, c'est de se dire que à n'importe quel moment, quand une application est en train d'être exécutée, on a la possibilité de visualiser dans un outil de debug, donc là en l'occurrence Visual Studio, de visualiser les lignes qui correspondent au morceau de binaire qui est en train d'être exécuté. Donc, c'est pour ça qu'on, c'est comme ça qu'on arrive à savoir à un moment donné que dans telle condition, quand on exécute tel code, ça a tel résultat, ça génère une erreur, ou alors ça ne fonctionne pas comme on avait prévu. Pour pouvoir faire ce débogage, on a plusieurs modes de fonctionnement. Alors c'est non exhaustif ici, mais ça fait partie de ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc le premier, c'est de faire du pas à pas. On lance l'application et on s'arrête sur la première ligne de code. Donc l'application s'arrête aussi, se met en pause. On s'arrête sur cette ligne de code et puis on a la possibilité de regarder où en sont les différentes variables, par quel morceau de code on est passé. Donc là, en l'occurrence, c'est la première ligne. Et on avance sur les différentes lignes les unes après les autres, ce qui fait que Visual Studio va nous positionner sur la prochaine ligne et exécuter le bout de binaire qui correspond à cette ligne. Et donc d'avancer comme ça au fur et à mesure dans l'application. Dans les applications modernes, on a un nombre de lignes de code qui est très important, généralement. Donc on ne peut pas faire toute l'application en pas à pas. Donc on a d'autres modes de fonctionnement qui permettent par exemple de dire je lance mon application et dès que j'ai une exception qui survient, dès que j'ai une erreur, le Visual Studio va arrêter l'exécution de l'application et se mettre sur la ligne sur laquelle j'ai eu l'erreur et me donner une information sur l'exception qui a eu lieu. Un autre mode de fonctionnement, c'est quand on sait quelle portion de l'application pose problème. Et donc on va mettre ce qu'on appelle un point d'arrêt dans le code pour lui dire exécute-moi l'application, exécute tout le code, mais dès que tu arrives sur cette ligne, tu t'arrêtes parce que j'ai envie de voir ce qui se passe précisément à ce moment-là. Quand une application génère une erreur, forcément Visual Studio va s'arrêter, forcément, entre guillemets, puisqu'on a la possibilité de configurer dans l'outil quelles exceptions on veut que Visual Studio s'arrête et nous donne de l'information sans que l'application se soit tuée directement. Si on veut aller un tout petit peu plus loin dans les possibilités qu'on a au niveau du débogage, on a des outils complémentaires qui sont apparus dans les dernières versions, les versions les plus récentes de Visual Studio. Donc il y en a un qui s'appelle CodeMap. Celui-là va nous permettre d'avoir une représentation graphique des différents appels qui ont été faits à travers les différentes méthodes de notre application et de représenter ça donc sous forme de graphe. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir conserver ce graphe et le transmettre à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse comprendre notre session de débogage et potentiellement trouver l'origine du problème qu'on n'a pas pu analyser nous-mêmes. Le deuxième outil, c'est l'IntelliTrace. Donc ça, c'est quelque chose qui va conserver l'historique de toute une session de debug. Puisqu'en fait, quand on fait du pas à pas, on a la possibilité d'aller vers l'avant, donc de demander d'exécuter la prochaine ligne de code, la prochaine instruction. Mais une fois qu'on est sur cette instruction-là, on ne peut pas revoir ce qui s'est passé avant. L'IntelliTrace, c'est exactement fait pour ça. Donc, pendant qu'on exécute notre application en debug, ça va sauvegarder tous les événements de mon application, tous ceux qui sont passés au niveau du debug, ça va les garder, les conserver dans un fichier d'extension .itrace que je vais pouvoir ensuite reconsulter, je vais pouvoir revenir en arrière et faire du pas à pas en fait dans le passé. Ça c'est une première intérêt, c'est quand on est en train de débugger son application dans Visual Studio en tant que développeur. Quand, depuis les versions 2012 de Visual Studio et du coup la version 2013 également, c'est aussi supporté en production. Donc ça permet d'avoir, dans une certaine mesure, hein, puisque c'est des fichiers qui sont rapidement assez gros, ça permet d'avoir, d'activer ça en production soit manuellement, soit en utilisant les outils de la gamme System Center, pour demander de collecter l'IntelliTrace pendant un certain temps. Ce qui fait que le problème qui survient en production peut être reproduit au niveau de la trace de debug très facilement dans Visual Studio. Et en fait, le développeur va avoir l'exécution du code comme s'il avait été en debug pile au moment où l'exception ou le problème globalement est survenu en production. Voilà, donc ça c'est l'IntelliTrace. Et quand on fait du debug, on va faire du debug dans son environnement, sur ma machine. Donc par exemple, je debug une application Windows 8, je peux très bien l'exécuter tel quel sur mon Windows 8 si je l'ai en local. Mais potentiellement, j'ai envie de pouvoir l'exécuter dans un environnement différent. Et donc, on peut utiliser un émulateur dans Visual Studio pour exécuter une application. Ces émulateurs, il y en a plusieurs qui existent. Il y a Windows Phone, Windows 8, qui existent en standard, qui permettent d'exécuter et de déboguer ces applications. Je peux également déboguer une application à distance sur un téléphone directement, donc à distance modulo le câble USB évidemment qu'on doit brancher pour connecter ce téléphone-là, pour pouvoir utiliser directement l'interface du téléphone sans devoir utiliser l'émulateur qui offre bien évidemment à la souris pas la même expérience que ce qu'on a quand on utilise un vrai téléphone. Alors, je vous propose de regarder un petit peu tout ça en live dans un vrai Visual Studio. Et pas uniquement en slide et en explication. Donc là, c'est l'application qu'on a développée ensemble dans le module 2 de ce cours MVA. Je l'ai un petit peu complétée pour ajouter des petites choses. Donc là, vous voyez que j'ai cette application console, elle affiche des messages à l'écran. Et ces messages, elle va les chercher dans une classe statique ici qui est stockée dans une librairie de classe, ici, un fichier DLL, qui est stocké à cet endroit. Donc on a d'abord un message qui est récupéré avec la méthode getHelloMessage, ensuite on en a un autre qui est un peu plus complet, qui est récupéré avec getHelloMessageWithName, et une qui va récupérer le contenu d'un fichier et l'afficher. Si je vais dans le code, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond, donc on a notre getHelloMessage qui est le même que ce qu'on avait fait dans le module 2, le getFileContent qui utilise le framework .NET et des fonctions du framework .NET pour aller récupérer le contenu d'un fichier et le renvoyer en retour de cette méthode. Et en dernier, on a cette méthode getHelloMessageWithName qui en fait encapsule la méthode getHelloMessage et donc on lui passe un paramètre. On passe une variable qui est le nom de la personne, on concatène ça dans une variable et on la renvoie au code d'appelant. Voilà. Si je veux comprendre ce qui se passe au niveau du code, donc que je veux rentrer en debug dans mon application, j'ai plusieurs façons de le faire. La première, c'est de cliquer sur debug et de demander de commencer à faire du pas à pas. Donc je clique sur ce bouton-là, ça lance mon application, ça la compile si jamais elle a besoin d'être compilée, ça la lance et ça la met tout de suite en pause en s'arrêtant sur la première ligne de code. Donc là, cette ligne de code, c'est celle-là. Si je regarde mon application, elle tourne bien ici, hein, elle est bien exécutée. Mais pour l'instant, elle n'a rien fait, elle n'a rien affiché, parce qu'on n'a pas encore exécuté la ligne de code qui va afficher ce résultat-là. Donc elle est en pause, on sait que c'est cette ligne de code qui est intéressante, et qui est celle sur laquelle on est. Si je veux continuer mon exécution, j'ai plusieurs manières de faire. Soit j'utilise le même bouton qui est celui-là, soit j'utilise un autre bouton qui est celui-ci. Et donc en fait, la différence entre ces deux, c'est que le step into va aller va aller faire du pas à pas dans une méthode qui est en train d'être exécuté. Donc pour illustrer ce que je viens de dire, la prochaine ligne de code c'est celle-ci, donc c'est une méthode qui va assigner le résultat de cette une ligne de code qui va assigner le résultat de cette méthode à cette variable. Et donc là-dedans il y a du code qui est exécuté. J'ai deux solutions, soit je lui dis exécute le code mais ça m'intéresse pas et passe tout de suite à la ligne suivante. Pour ça je vais utiliser le pas qui ne va pas à l'intérieur, donc l'équivalent de F10, ou alors je vais aller à l'intérieur de cette méthode et voir ce qui se passe dedans, et dans ce cas je vais utiliser celui-là, le step into. Donc si je fais ça, je pars du fichier dans lequel je suis et j'arrive sur la première ligne de code de la méthode que j'appelle. Donc, je continue, voilà, je vois que là ça renvoie hello, et je continue à exécuter mon application. Au niveau de... donc je peux continuer à faire ça, voilà, très facilement, etc., etc. Si jamais je suis dans un autre fichier à un moment donné, parce que je me dis, ah oui, peut-être que j'ai fait ça pour telle raison, donc je navigue dans mes fichiers en utilisant l'explorateur de solutions ici, par exemple, et que j'ai perdu l'endroit où est actuellement arrêté l'exécution du code, je peux cliquer sur cette flèche-là, et ça va me ramener directement à la ligne, dans le bon fichier, au bon endroit, et qui est celle sur laquelle on est arrêté actuellement. Voilà, donc si je continue à faire ça, je peux cliquer là-dessus, step into, je rentre dans la méthode getHelloMessage with name. Si je fais step into, là j'ai une exécution de la méthode getHelloMessage tout court, et je vais rentrer à l'intérieur et continuer mon exécution, voilà, et puis je reviens sur cette méthode-là, etc., etc. Si je continue ça et que je reviens à mon code appelant qui est celui-là, et que donc là en fait j'ai déjà exécuté un write-line à cet endroit-là. Donc si je regarde mon application, j'ai bien marqué coucou ici, puisque c'est vraiment un bout d'application qui est exécuté, puis ensuite on met en pause, etc., etc. Si là c'est une application console, mais si j'exécute une application avec une interface graphique, le code va être en pause, et donc je pourrais visualiser l'application, l'interface graphique, mais je ne pourrais pas interagir avec aucun des éléments graphiques, aucun bouton, rien du tout, ça ne répondra pas puisque le code est arrêté, donc il n'y a rien qui pourra réagir derrière. Donc c'est important à savoir, même si ça paraît évident. Alors, quand je suis en arrêt sur une ligne, peu importe laquelle, j'ai la possibilité d'avoir plein d'informations. Je vais réduire ça pour gagner un petit peu de place. Je vais agrandir ça, voilà. Donc j'ai la possibilité d'avoir plein d'informations. Déjà dans la surface dans laquelle j'ai mon code, je peux passer ma souris sur les différents arguments, donc pas là mais ici, voilà. Donc là je vois que ça c'est une variable qui a comme valeur coucou. Donc je vois à cet endroit-là, et c'est bien la valeur qu'il y a pour cette exécution à ce moment précis. Je peux épingler une valeur comme ça, ce qui fait qu'à chaque exécution je vais retrouver la valeur coucou à cet endroit-là, et ça sera toujours conservé. Dans Visual Studio, on a la possibilité de modifier à l'exécution, pendant l'exécution, de faire quelque chose qu'on appelle le Edit and Continue, qui permet de modifier un certain nombre de choses, notamment des chaînes de caractères, dans une variable, de manière à pouvoir le modifier pour cette exécution-là. Donc ça, l'exemple d'utilisation, ça peut aussi être pour une variable qui contient un entier. Si on a envie de tester un morceau de code, mais qu'il faut être dans une condition bien particulière et que pour être dans cette condition-là, il faut avoir une chaîne de caractères qui a une autre valeur, ou si on a envie de faire un petit test pendant qu'on est en train d'exécuter notre code, sans avoir besoin de tout recompiler, on peut modifier en live le contenu et ça sera validé et ça sera sauvegardé dans cette variable-là. Maintenant, là-dedans, il y a marqué test. Bon, elle n'est plus utilisée derrière, mais il y a marqué test à l'intérieur. Donc, si elle était utilisée, ça utiliserait bien cette valeur. Donc, ça permet de modifier l'état des variables de l'application qui est en train d'être exécutée directement à partir de Visual Studio, pour éviter, quand on fait un petit test, une petite variation dans notre test, de toujours devoir recompiler l'application, la relancer et refaire toute l'exécution jusque là où on est. Voilà, donc si je vois cette variable-là, par exemple, on voit qu'il n'y a rien dedans, donc c'est une valeur qui est nulle, et en fait, on le voit également, on n'est pas obligé de passer la souris dessus, on le voit également dans cette partie de Visual Studio ici, qui contient plein de choses, donc notamment cet onglet auto qui me donne la liste de toutes les variables par lesquelles le code est passé depuis que je suis dans cette session de debug. Donc là j'ai ma variable HelloMessage, j'ai ma variable HelloMessageName qui est nulle pour l'instant. Donc là si je veux passer à la suite, je clique sur ce bouton-là. Donc on va faire par exemple voilà, celui-là, F10. Et là on voit que ma variable, donc la liste des autos ont changé, et on voit que ma variable c'est maintenant coucou tout le monde. Donc ça c'est une première manière de faire, c'est des variables automatiques. On a également la liste exhaustive de toutes les variables locales à l'exécution de ma fonction. Et ici on a quelque chose qui s'appelle le watch dans lequel on peut rajouter nos propres méthodes. Donc si par exemple je prends ça, je prends cet appel de méthode, je le positionne là-dedans, je fais entrer, ça me donne le résultat en live. Et ça c'est une nouveauté de la dernière version de Visual Studio qui permet de voir dans le watch, dans la fenêtre watch, de voir les résultats d'une méthode. Ça fonctionne bien évidemment aussi avec des paramètres, hein, on les a ici, et on peut en avoir autant qu'on veut, autant de lignes que nécessaire. À côté de ça, on a ici la possibilité de voir quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure mais que je n'ai pas encore montré, qui sont les points d'arrêt. Donc je vois une fenêtre ici, je vois que j'ai pas de points d'arrêt qui sont positionnés. Pour positionner un point d'arrêt, donc par exemple, disons ici, qui est la prochaine ligne, mais voilà, si je veux mettre un point d'arrêt à cet endroit-là, je vais arrêter l'exécution de mon application, je vais mettre mon point d'arrêt à cet endroit ici. Pour pouvoir le faire, soit je... passe par le menu Debug ici et je lui demande d'activer le point d'arrêt sur cette ligne, donc du coup la ligne se met en rouge avec un point rouge devant. Soit je clique dans la zone grise ici au niveau de la ligne que je veux, pour laquelle je veux activer un point d'arrêt. Soit j'appuie sur F9, hein, c'est le même fonctionnement. Et quand je fais ça, je peux démarrer l'exécution de mon application en debug. Il faut le mettre en debug ici. Je fais start. Et là, automatiquement, il va exécuter mon application, faire toutes les lignes de code et s'arrêter à celle où j'ai mis un point d'arrêt. Et ce point d'arrêt apparaît du coup dans cette ligne, dans cette interface-là. J'aurai autant de lignes que de points d'arrêt. Je peux les activer, les désactiver si besoin. Donc voilà pour ces fameux points d'arrêt. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut se dire, tiens, j'ai un problème à tel endroit du code. Je vais vous montrer. Si par exemple j'arrête l'exécution du debug, que je vais dans shared code et je me dis, je veux voir ce qui se passe, mon point d'arrêt ici. Voilà, je l'active comme ça. Et là, donc, je clique sur Start. Il va faire pareil, il va exécuter toute mon application. Et on n'est pas obligé d'avoir ce point d'arrêt dans la méthode principale du code. On peut l'avoir dans une sous-méthode, comme c'est le cas ici. Il va s'arrêter à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation et ça permet de comprendre ce qui se passe à ce moment-là, de voir, tiens, là, le message est bon et tout ça et tout ça. Si je continue l'exécution de mon code, je clique sur Continue. Là, j'ai maintenant une autre possibilité qui est, enfin un autre cas d'usage, qui est que j'ai une exception qui s'est produite. Cette exception, c'est File Not Found Exception, qui pour l'instant n'est pas forcément très claire, mais j'ai plus d'informations. Donc je vois qu'en fait, si je ne mets pas ma souris dessus, c'est impossible pour lui de trouver le fichier, mon fichier.txt. Donc a priori, ce fichier n'existe pas sur le disque. C'est pour ça que j'ai une exception qui est levée à ce moment-là. Et si j'ai besoin d'un peu plus de détails, même si dans ce cas précis c'est très clair, je peux cliquer sur View Detail et avoir accès à plein d'informations complémentaires, donc des choses qui sont renseignées ou pas, un lien sur la documentation pour comprendre dans quel type de cas on a ce genre d'erreur. Et on a ici quelque chose qui s'appelle la Stack Trace, la pile d'appels, qui va m'indiquer l'ensemble des méthodes par lesquelles est passé le code, ou l'exécution plutôt, de l'application pour arriver à cette erreur. Donc c'est quelque chose qui a été appelé. Donc l'erreur arrive a été levée par cette fonction-là, qui a été appelée dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là. Donc on peut revenir comme ça en arrière. Toute cette partie-là, c'est du code qui n'est pas à moi, c'est du code que moi j'appelle, parce que j'utilise quelque chose qui vient du framework, qui est file.readAllText. Par contre, ici je vois mon code. Donc parfois, l'exception elle est levée dans mon code à moi, je sais que c'est cette fonction-là qui a levé le problème, et je sais qu'avant elle a été appelée de main, et potentiellement il y aurait tout un chemin qui a déjà été fait. Donc ça c'est intéressant pour comprendre d'où vient le problème, cette pile d'appels, qu'on peut d'ailleurs visualiser tout le temps, elle est disponible ici, donc même si on n'est pas en train de visualiser une exception, un résultat d'exception, on a quand même la liste des méthodes par lesquelles on est passé. Donc il y a eu un appel à main, qui ensuite a appelé getFileContent, et c'est pour ça qu'on est à ce niveau-là dans l'exécution du code. Alors, je vais aller dans mon programme.cs et je vais commenter cette partie-là. Voilà. Parce qu'on sait que ça lève une erreur, donc pour la suite, c'est pas forcément intéressant. Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut faire quand on est en debug. Donc, je vais me positionner ici et je vais mettre un point d'arrêt à cet endroit-là. Voilà. Comment on fait quand on est en debug pour visualiser un petit peu le graphe des différentes choses qui se passent au niveau de l'exécution de l'application. Donc, je réduis un petit peu ça. J'ai un bouton ici qui s'appelle CodeMap, qui va me permettre de générer le graphe qui correspond à l'exécution de mon code. Donc je fais CodeMap. Donc pour l'instant, ce que j'ai, c'est, je vais fermer ce, voilà, désépingler cette variable. Donc là, le code, pour l'instant, c'est du code externe, qui est le code qui permet de mettre tout en œuvre pour pouvoir lancer une application, qui n'est pas mon code. Et ensuite, j'ai le main, donc c'est là où je suis. J'ai à la fois un point rouge ici, qui indique que j'ai un point d'arrêt dans cette méthode quelque part, donc en l'occurrence je suis dessus, et j'ai une flèche jaune qui indique que je suis, au niveau de l'exécution, je suis arrêté dans cette méthode. Si je navigue à l'intérieur de ça, et que je fais un F11 ici, je vais à l'intérieur du code, et donc là j'appelle une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode du coup est insérée dans le graphe automatiquement pour moi, ici getHelloMessage, et ça me permet de conserver le fait que je suis passé par là, de m'en souvenir. Donc je continue à avancer dans mon application, quand je reviens à la méthode appelante, la flèche jaune revient sur main à cet endroit-là, et je repasse la main à l'exécution du code principal. Je continue, là, ça c'est pas du code à moi, enfin c'est du code qui appelle pas une méthode à moi. Je vais ensuite dans le getHelloMessageWithName, qui, pour information, pour rappel, Oula. Appelle aussi get hello message. Donc là, il me le crée à côté. Il me dit, très bien, il y a un point d'arrêt là-dedans, que je vais enlever d'ailleurs. Voilà. Il y a un point d'arrêt là-dedans, il n'y en a plus maintenant. Et il y a une flèche jaune qui me dit, actuellement, le code, il est arrêté dans cette méthode. Je continue l'exécution. Et ce qui va se passer, c'est que je vais aller à l'intérieur du get hello message, qui est la même méthode que tout à l'heure. Et vous allez voir que le graphe va complètement être modifié pour être réadapté et pour retracer réellement ce qui s'est passé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on m'indique ici? On m'indique que getHelloMessage, elle a été accédée de deux façons. La première, c'est la méthode main qui l'a appelée en direct. Et la deuxième, c'est la méthode main qui a appelé cette méthode-là, qui l'a appelée en direct. Donc on voit tous les chemins qui ont été pris pour arriver à cette méthode, ce qui peut être intéressant pour comprendre le fonctionnement du code. Et surtout quels impacts, où sont utilisées les méthodes, par qui, dans quelles conditions. Si je continue, je me dis, bon, imaginons qu'il y a un problème ici, ou que j'ai envie de notifier quelque chose à cet endroit-là, je peux très bien faire un clic droit sur n'importe laquelle des méthodes, et ajouter un commentaire, où je mets du texte libre. Donc imaginons que je détecte un problème de performance, donc problème de perf, voilà. Donc j'ajoute ce commentaire-là, je vais le positionner par ici, et du coup, comme ça, je sais maintenant que j'ai ce problème-là, et je continue à faire mon debug, je continue à avancer, j'avance, j'arrive dans mon code, etc., etc. Et donc là, réellement, ce qui est intéressant, c'est que je construis progressivement un graphe qui représente le fonctionnement de mon application dans un contexte donné. Donc là, c'est une application qui est en séquentiel avec des choses, mais avec des choses qui se passent forcément toujours dans le même ordre, mais quand j'utilise une application avec une interface graphique où l'utilisateur fait un petit peu ce qu'il a envie et dans l'ordre qu'il veut, je peux imaginer simuler un scénario d'un utilisateur et en générer le graphe qui correspond pour pouvoir l'avoir sous la main et savoir ce qui se passe quand un utilisateur clique sur tel ou tel bouton. Là où ça devient intéressant, c'est que c'est un fichier en fait, ce graphique. Donc je peux le sauvegarder, c'est un fichier DGML, et ce DGML va contenir toute l'exécution, enfin tout le graphe de mes différentes méthodes et les relations les unes avec les autres, et aussi le fameux commentaire, celui-là, qui pourra donner une information à quelqu'un. Ce fichier, ensuite, je sauvegarde quelque part, je l'envoie à un collègue, qui lui est peut-être meilleur que moi pour ses problèmes de performance, va pouvoir les résoudre et du coup comprendre, ah oui, c'est quand on appelle la méthode à partir de tel endroit qu'on a ce problème de perf, très bien, il le reproduit chez lui et il arrive à y arriver. Il arrive à le corriger. Alors, je vais fermer ce fichier. Et dernière fonctionnalité qui est d'ailleurs complémentaire, c'est l'IntelliTrace. Donc là, vous avez vu que jusqu'à présent, on a fait du pas à pas. Donc on avance, on va vers l'avant, on avance. Donc à chaque fois que j'appuie sur quelque chose, je vais sur l'instruction suivante dans l'exécution de mon code. L'IntelliTrace, c'est quelque chose qui va permettre de faire ça tourne en permanence, mais qui va sauvegarder tous les événements de debug que j'ai dans mon application. Donc là, si vous voyez ici, je peux revenir en arrière et voir que, bah, ok, il y a eu ça, et avant il y avait eu ça, et avant il y a eu ce code-là, et avant il y a eu ce code-là, etc., etc., et revenir comme ça, refaire tout l'historique et comprendre ce qui s'est passé. Donc même si j'ai mis un point d'arrêt et que j'ai raté le moment où il y a eu un problème potentiel, j'ai quand même la possibilité de revenir en arrière quand je suis sur ce point d'arrêt pour comprendre ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique pour moi-même, mais pas seulement, parce que je peux sauvegarder ce fichier, c'est un fichier .itrace, je peux le sauvegarder ici en cliquant sur la disquette qui est là, et je peux le transmettre à un de mes collègues. Donc par exemple, je lui transmettrai ma trace de debug graphique avec mes petits commentaires, et puis à côté, je lui donne le fichier .itrace qui lui permet de revoir exactement ce qui s'est passé, et d'avoir accès à pas mal d'informations, les arguments qui ont été passés à certaines variables, à certaines méthodes, et ce genre de choses. Voilà, donc c'est vraiment très pratique pour comprendre ce qui s'est passé. Pour paramétrer l'IntelliTrace, vous avez ici un petit bouton, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'IntelliTrace, ça a un impact très faible sur les performances. Par contre, ça a un impact en termes de place qui peut être assez important, parce que ça stocke un nombre d'informations assez phénoménal. Donc si je clique sur ce bouton-là, je vais arriver dans le paramétrage de l'IntelliTrace de Visual Studio. Alors là, il y a des choses que je peux pas forcément modifier tout de suite parce que je suis en debug, mais en gros, je peux lui demander de l'activer ou de ne pas l'activer. Vous pouvez le désactiver. Et je stocke uniquement les événements d'IntelliTrace. Donc là, c'est un ensemble d'événements qu'on va pouvoir modifier. Ou alors, je stocke les événements IntelliTrace et les informations de call. Donc il y a la call stack qu'en fait qu'on a vu tout à l'heure, et en gros, cette call stack va être stockée de manière historique, et à chaque événement va être associée la call stack dans mon Visual Studio, donc je pourrais savoir ce qui s'est passé. Je peux choisir les événements que je veux enregistrer, Donc par défaut, il enregistre tous les événements de debug. Dès que je fais du pas à pas, bah chaque pas est conservé comme un événement dans l'IntelliTrace. Mais je peux aussi lui dire que certains événements particuliers doivent être conservés. Par exemple, ADO.NET, qui est le morceau du framework .NET qui permet d'accéder aux données. Dès qu'il y a un appel qui est fait avec ça, hop, c'est sauvegardé. Donc comme ça, je l'ai dans mon historique. Dès que j'accède à un fichier, dès que je fais du data binding, dès que j'utilise la console, je manipule des threads, etc., etc. Donc tout ça, je peux le choisir et sélectionner et choisir un ensemble d'événements qui vont m'intéresser et que je vais conserver. Voilà. Donc voilà pour ces informations concernant le debug avec Visual Studio. La dernière chose dont je voulais parler, c'est cette petite fenêtre ici qui correspond à la configuration de compilation de mon projet. Donc ça, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand je vais vouloir faire du debug, pour pouvoir aider Visual Studio à comprendre et à faire le lien entre un bout de code dans mon fichier de code et un bout de binaire dans mon exécutable, Visual Studio, quand il compile, il va se mettre des petites informations pour savoir enfin, pour faire ces corrélations. Pour avoir ces informations-là, forcément, il le met dans les fichiers, donc ça prend plus de place et ça a un impact sur les performances qui peut devenir important dans certains cas. Donc, c'est vraiment à activer uniquement quand on fait du debug. Quand on veut livrer une application en production, on va se mettre en mode release, où là, on n'a plus toutes ces informations et du coup, l'application va être au meilleur de ses performances et aura un fichier qui sera un peu plus petit. Voilà. J'espère maintenant que vous savez un petit peu mieux comment débugger une application et comprendre l'origine des erreurs potentiellement dans votre code, ou même comprendre tout simplement un code auquel vous n'avez pas forcément participé. Dans le prochain module, on va aborder la personnalisation de Visual Studio, les extensions que vous pouvez utiliser, et on parlera plus en détail d'une technologie qui s'appelle Nugget, qui permet de récupérer des frameworks directement dans votre code pour pouvoir les utiliser. À bientôt.